Alors, bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Vous savez, vous regardez les bulletins télévisés, vous lisez les journaux. Nous entrons actuellement dans une période unique dans l'histoire de l'humanité. Vous et moi, à notre époque, nous allons voir et vivre des choses sans précédent, qui n'ont jamais été vécues, qui n'ont jamais été vues dans l'histoire. Par contre, ce qui est encourageant, c'est que Dieu nous a fait des promesses infaillibles. Dieu nous a dit, par exemple, sur ce roc, c'est le Christ qui parlait, vous pourrez aller voir dans Matthieu 16, verset 18, en parlant de lui-même, il a dit, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'Église de Dieu ne sera jamais détruite. Au cours de l'histoire, ça s'est avéré. Parce qu'à certains moments donnés, l'Église de Dieu est presque disparue. Elle est devenue toute petite, mais jamais elle n'a été éliminée, jamais elle n'a été détruite à cause de la promesse du Christ. Et on peut compter là-dessus jusqu'à la fin. Le Christ a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors ça, c'est notre rocher, c'est notre garantie, c'est notre Seigneur, le Tout-Puissant, El Shaddai, qui nous dit « Je suis avec vous ». Alors, quelle que soit la turbulence qu'il y a en avant, qu'il y aura à traverser, on peut toujours avoir les yeux sur le chef puis le consommateur de la foi, celui qui nous donne la foi, le Christ. Il a dit aussi dans Hébreux 13, verset 5, et c'est une promesse, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Dieu donne à son Église et à chacun des membres de son Église tout ce dont nous avons besoin pour arriver au but, pour parvenir à l'objectif. Vous pourrez aller voir dans 2 Pierre 1, tout le chapitre 1, mais en particulier le verset 3 qui résume ce que je vous dis actuellement. Parce qu'il est écrit dans 2 Pierre 1 et le verset 3, sa divine puissance, la puissance de Dieu, à laquelle rien ne peut s'opposer. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à la vie pour vivre actuellement, mais tout ce qui contribue à nous amener à la vie éternelle et à la piété, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin pour être capable de vivre selon les lois de Dieu. C'est ça la piété, c'est de vivre conformément aux lois de Dieu. Alors ça aussi, c'est une promesse, c'est une belle garantie. Il dit, je vous ai tout donné ce qu'il faut pour que vous y arriviez. Comprenez-vous pourquoi M. Appartient nous dit si souvent, ne laissez jamais les doutes vous ébranler. Confiez-vous à Dieu. Ayez foi en lui et marchez selon ses voies. Dieu va vous amener à terme. Allez à Apocalypse, maintenant, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, et on va lire versets 7 et 8. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous donc, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Alors, ça, c'est ce qu'on attend, parce qu'au retour de Christ, il y aura ce banquet superbe des noces de l'agneau, où tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin auront reçu la vie éternelle et vont pouvoir participer à ce grand banquet, à ce grand festin qu'on appelle les noces de l'agneau, en présence de l'agneau lui-même, du Christ. Alors, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. C'est pas loin devant nous. Et regardez après ce qui est marqué. Son épouse s'est préparée. Et j'insiste là-dessus. Et ça rejoint le thème de mon message aujourd'hui. Son épouse s'est préparée. Et verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. Et c'est quoi ce fin lin-là ou ces vêtements-là que l'épouse doit revêtir? Ce sont les œuvres justes des saints. De pratiquer la justice, de pratiquer l'amour envers les frères, les sœurs dans l'Église, nos frères, nos sœurs dans nos familles, envers le monde autour de nous. D'aimer tout le monde. Alors, nous devons donc, c'est le message qu'il y a ça ici, on doit donc se tenir prêt. Mais plus que ça, on doit continuer de se préparer. Parce qu'il y a un danger en tant qu'être humain de dire « Ah, oh, je connais beaucoup des choses bibliques, j'observe le sabbat depuis un bon bout de temps, je fais mes dîmes, je fais ci, je fais ça, et bon, je connais la vérité, et je vais être aux noces de l'agneau. » Mais n'oubliez pas, faut que l'épouse se prépare jusqu'à la dernière minute pour qu'elle soit prête. Sinon, elle ne sera pas prête. Parce que l'appel de Dieu, c'est devenu la priorité de notre vie, non? Alors, à ce moment-là, ça doit nous animer jusqu'au bout de la course. Et c'est ce qu'on doit faire, de continuer de nous préparer. Et ce faisant, nous nous préparons, bien sûr, au but final, c'est-à-dire à avoir la vie éternelle, à participer aux noces de l'agneau, à servir sous le Christ dans le monde à venir pour rebâtir le monde, une société nouvelle. Mais ce faisant, on se prépare aussi, et c'est le thème de mon message, à ce qui doit nous être donné avant le retour du Christ. Il y a quelque chose qui doit nous être donné avant le retour du Christ. Et c'est les signes qui doivent accompagner l'annonce de l'Évangile. Ce que la Bible appelle, en d'autres termes, les dons spirituels. Et j'ai entendu dernièrement un sermon qui a été donné par M. Rod McNair dans le contexte, justement, de la fête de la Pentecôte. Et j'ai trouvé ce sermon-là particulièrement inspirant. Alors, j'ai pris certains éléments pour bâtir le sermon d'aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment en profiter aussi. Vous savez, selon sa fidélité absolue, si on peut y compter, selon sa fidélité absolue, Dieu va pourvoir et de façon frappante, et on va le voir tantôt, et on va le voir demain. Et Dieu va pourvoir de façon frappante aux besoins de son Église et aux besoins de ses enfants qui sont fidèles et qui sont actifs pour se préparer aux noces de l'agneau. Dieu va pourvoir à tous nos besoins si nous restons actifs et fidèles pour le servir, pour développer son caractère, pour faire les choses qu'on doit faire. Même si on n'est pas parfait, on s'en va vers la perfection. Dieu va nous rendre parfaits. Et on ne sera pas parfait tant que le Christ ne sera pas revenu. Mais il faut être en marche. Il faut être en marche. Et lui demander chaque jour son aide, ses corrections, ses encouragements. Et il faut terminer l'œuvre. L'œuvre qui a été confiée à l'Église de Philadelphie. Même si nous sommes actuellement rendus dans la dernière époque, à ce qu'on appelle l'ère de Laodicée dans l'Église, la dernière étape, Dieu a confié à son Église de l'ère de Philadelphie d'annoncer l'Évangile à toutes les nations dans une attitude de Philadelphien, d'amour envers tous. Et on doit maintenir ce rythme-là pour terminer le travail. Pas par notre force, par sa puissance à lui. Ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Et ça, quand on a cette confiance-là aussi, ça change tout. Parce que c'est lui qui fait. Alors, on arrête d'être inquiet de dire « je suis pas capable de le faire ». C'est vrai que je suis pas capable. Et c'est vrai que l'Église n'est pas capable par elle-même. Sauf que par la puissance de Dieu, tout est possible. Et si Dieu nous donne une mission de faire telle chose, d'annoncer l'Évangile aux nations israélites et à la terre entière, ça va se faire, mais par sa force, pas par la nôtre. Apocalypse 3. Voyons ce passage-là qui décrit justement la responsabilité que Dieu a donnée à l'ère de Philadelphie. Et cette étape-là, ou cette ère-là de l'Église, comme vous savez, elle a commencé avec M. Armstrong, il y a plusieurs dizaines d'années. M. Armstrong est décédé, mais on continue la même œuvre. Et si vous remarquez, dans l'Église du Dieu vivant, ce sont les évangélistes ordonnés par M. Armstrong, ou à l'ère de M. Armstrong, qui sont ensemble, dans l'Église du Dieu vivant, et qui continue la même mission. Pourquoi? Parce que ça n'a pas changé. C'est le même travail qu'on a à faire. Et c'est pas surprenant que ce soit les mêmes dirigeants qui ont été ordonnés à cette époque-là qui continuent le travail dans l'Église du Dieu vivant. Ça parle. Alors, Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et personne ne peut fermer la porte que nous avons maintenant pour prêcher l'Évangile. Tant que Dieu ne dira pas, c'est terminé. On sait qu'un jour, Dieu va fermer la porte. Parce que l'Évangile aura accompli son œuvre. Et il y aura, comme la Bible dit, famine de la parole. C'est-à-dire que l'Évangile ne sera plus annoncé comme on l'annonce là, sur des centaines de réseaux ou de stations de télévision et par les publications, par le réseau Internet et ainsi de suite. Ça sera terminé. Alors, c'est pour ça qu'il dit ici, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et quand ce sera terminé, ce sera terminé. C'est marqué dans la Bible, je ne veux pas aller là-dedans, mais il dit, ils me chercheront, eux et leurs enfants, et là, ils chercheront à comprendre. Mais ce sera trop tard. Ce sera terminé. L'époque accordée pour annoncer clairement et hautement l'Évangile va avoir été complétée. Verset 8. Il dit à cette petite église-là, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Nous sommes rien. Nous sommes un tout petit troupeau, une toute petite église. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. » Vous remarquez comment les ministres de l'Église du Dieu vivant parlent basé sur la parole de Dieu. J'ai visité des gens cette semaine qui sont nouveaux dans la vérité et à un moment donné, ils me posaient des questions. Et ils me demandaient qu'est-ce que je pensais de telle chose. Je leur ai dit, ce que je pense là, ça n'a aucune importance, mais aucune importance. Je vais vous dire, par exemple, ce que la Bible dit, ce que Dieu pense de ce que vous me dites. Là, ça changeait tout. Parce que je leur ai dit, écoutez, il y a autant d'opinions qu'il peut avoir d'êtres humains sur la face de la terre. Alors, où est la vérité là-dedans? Le Christ a dit, ta parole est la vérité. Alors, c'est pour ça que les ministres de l'Église du Dieu vivant prêchent la vérité. Alors, Dieu reconnaît le travail qu'on fait, même si on n'est pas parfait, là. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Renier son nom, c'est cesser de pratiquer ses lois aussi. On n'a pas cessé de pratiquer le sabbat. On n'a pas cessé d'observer les fêtes de l'Éternel. On les annonce, au contraire. Il dit, à cause de ça, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est pour ça que je vous dis, l'Évangile, on va l'annoncer jusqu'à temps que ce soit terminé, puis pas à peu près, mais avec force. Et Dieu va nous donner les moyens de le faire. Et regardez le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est vrai que ça demande de la persévérance. Et quand je regarde, monsieur appartient, qui annonce les mêmes choses depuis 50 ans. Quand je regarde M. Meredith qui annonce les mêmes choses depuis 60 ans, est-ce que c'est pas de la persévérance? Puis est-ce que c'est pas par amour pour ceux qui ont besoin de recevoir ce témoignage-là? En tant qu'être humain, ces gens-là aimeraient peut-être beaucoup mieux s'asseoir sur la galerie et lire des choses tranquillement ou aller à la pêche ou jouer au golf, comme les êtres humains aiment à prendre leur retraite. Mais ces gens-là n'ont jamais pris de retraite et n'en prendront jamais parce qu'on a une œuvre à terminer. Mais c'est tout qu'un exemple. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et nous, on doit avoir la même attitude en tant que membre de l'Église. Dieu m'a appelé, je veux la finir la course. J'ai pris l'engagement à mon baptême d'aller jusqu'au bout. Je sais que par moi, je ne peux pas, mais par Dieu, je peux. Je vais terminer la course. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, c'est-à-dire de la grande détresse qui s'en vient bientôt sur l'humanité, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et ça, c'est un avertissement extrêmement important. Alors, Dieu bientôt va confier à son Église et à certaines à son Église des signes pour confirmer l'annonce de l'Évangile. C'est ce que Dieu a fait, si vous connaissez votre Bible. Dans les moments marquants de l'histoire, il a marqué de son sceau puis de sa présence de façon incroyable son approbation et sa présence pour que son œuvre s'accomplisse. Quand vous regardez la première étape de l'Église, au moment où le Christ a fondé l'Église, quand vous regardez la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé pas longtemps après la Pentecôte? Vous voyez comment Dieu a manifesté sa puissance. À ce moment-là, les gens étaient ébahis. Il y a eu des grands nombres de conversions, même au moment de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre a fait son premier sermon. Il y a 3000 personnes qui ont été baptisées, si je me rappelle bien, cette même journée-là. Ils étaient frappés, touchés par ce qui se passait. Il y avait eu tremblement de terre, il y avait eu vent impétueux. Il y avait vu les langues de feu descendre sur les apôtres qui étaient réunis ensemble à ce jour-là. Alors, Dieu a marqué ce jour-là de façon spéciale. Et Dieu va marquer au temps de la fin, de façon spéciale, sa présence dans son Église, pour confirmer la parole par des signes. Marc 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Et on va lire à partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Ça, c'est juste avant que le Christ retourne au ciel. Il avait été ressuscité et il a rencontré ses disciples plusieurs fois après sa résurrection. Et ici, c'est la dernière fois qu'il les voit avant de retourner au trône de son Père. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est ce qu'on continue à faire. La bonne nouvelle du merveilleux monde à venir, de son gouvernement à être établi bientôt sur la face de la terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera jugé. C'est-à-dire qu'il sera jugé plus tard, il n'est pas jugé encore. Mais regardez verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte et par la suite dans certaines circonstances. « Ils saisiront des serpents. » Pas pour jouer avec et prendre des risques, mais s'il arrive qu'ils sont mordus par un serpent, comme c'est arrivé à Paul, il dit, il n'y arrivera aucun mal. Ils ne seront pas malades à cause de ça. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ça peut arriver à un moment donné que certains soient soumis à des breuvages dangereux. Mais Dieu dit, je vous protégerai si vous êtes mes serviteurs, si votre cœur est avec moi. Si vous êtes ceux qui continuent à développer mon caractère. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et regardez ce qui se passait. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Confirmait l'annonce de l'Évangile par des miracles. Pour montrer au peuple, voici quels sont mes serviteurs. Alors ça va se reproduire encore d'ici la fin. Et je vous donne le sermon aujourd'hui pour qu'on se prépare mentalement, oui, mais spirituellement surtout, aux choses qui viennent. Ça ne sera pas surprenant, ça va être enthousiasmant, mais ça ne sera pas surprenant. Et là, vous allez peut-être comprendre pourquoi M. Meredith, depuis déjà un bon bout de temps, parle de restaurer le christianisme apostolique. Le même christianisme qu'il y avait au temps des apôtres. Priorité sur Dieu. Le même zèle. Le même enthousiasme pour changer, pour obéir aux lois de Dieu à mesure que Dieu nous les montre. Le même zèle. Le même amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et que je vois ici, dans l'Église, se développer de plus en plus. Et qui, pour moi, est un signe que la famille de Dieu grandit. Que la famille de Dieu développe le caractère du papa de la famille et du plus vieux de la famille, qui est le Christ aussi. M. Meredith, depuis plusieurs années, nous demande, vous vous en rappellerez, de prier pour que Dieu nous donne son Saint-Esprit de plus en plus et de façon de plus en plus puissante. C'est pas pour rien. Et c'est pas pour notre gloriole non plus, là. C'est pour terminer l'œuvre de façon éclatante pour que l'humanité sache où est prêchée la vérité de Dieu et que l'humanité sache ce qui s'en vient, qu'il soit averti. Dieu avertit le monde de ce qui vient. Dieu ne prend pas personne par surprise. Rappelez-vous, même à l'époque du déluge, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé un serviteur qui était de tout cœur avec lui, Noé. Il a prêché pendant 100 ans. Qu'il y avait un déluge qui s'en venait s'il ne changeait pas. Il a averti l'humanité. Dieu ne prend personne par surprise. Et c'est ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Maintenant, comment nous préparer aux dons spirituels? Parce que Dieu va accorder à son Église des dons spirituels et c'est enthousiasmant. Et le titre de mon sermon aujourd'hui, se préparer aux dons spirituels. Se préparer aux dons spirituels. On ne sait pas comment Dieu va nous utiliser. Peut-être chacun de nous autres dans les jours qui viennent. Dans les temps tumultueux, mais excitants qui sont devant nous. Ce sera la décision du Tout-Puissant. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 et on va regarder le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 1. Regardez ce que Paul dit ici. Il parle des dons spirituels, justement. Et c'est le thème de mon message. Comment nous préparer aux dons spirituels qui s'en viennent? Que Dieu va accorder en temps voulu, selon sa volonté, à qui il va choisir de l'accorder. Pour ce qui concerne les dons spirituels, c'est Paul qui parle. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Autrement dit, il dit, je veux vous expliquer c'est quoi les dons spirituels et à quel point c'est important. Paul explique que le Saint-Esprit œuvre différemment dans différentes personnes. Ça, c'est important qu'on le sache aussi, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et Dieu considère ça et il veut que ce soit de même. On n'est pas tous pareils. On ne réagit pas tous pareils. On ne va pas à la même vitesse, d'une certaine façon, dans la croissance, dans la connaissance, malgré qu'il faut tous avancer le plus possible dans notre situation. Regardez le verset 4, un peu plus loin. Verset 4, qu'est-ce que Paul dit? Il y a diversité de dons. Bon, il y a divers dons. Mais le même esprit, ça vient du même esprit. Il y a diversité de ministères dans l'Église, mais c'est le même Seigneur. On est tous soumis au même Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église, que Dieu a établi comme chef suprême de l'Église. Il y a diversité d'opérations, de fonctions, de travail, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Déjà, avec ça, vous voyez un lien d'unité, là. On a un cantique très beau là-dessus qui parle du lien d'unité dans l'Église. Unité de fonction, unité de façon de faire, unité d'approche. Le même esprit. Verset 7, je pourrais dire esprit de famille. Hein, on parle d'un esprit de famille, dans nos familles physiques. Il y a des familles qui ont grandi ensemble, proches les uns des autres, puis ils ont un peu la même façon de faire, un peu la même façon de réagir, le même genre d'hospitalité quand c'est le cas. Bien, dans la famille de Dieu, ça doit être la même chose. Sauf qu'on reflète l'esprit de notre père, puis notre frère le plus vieux, qui nous a donné l'exemple. Or, à chacun, verset 7, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est ce que je vous disais, c'est que ça varie d'un à l'autre. C'est pas tous pareil. Dieu sait comment et à qui. Et c'est pas exclusivement pour le ministère. C'est pour les membres de l'Église aussi. Regardez le verset 8. Là, il va expliquer un peu ici. En effet, autrement dit, l'Esprit est donné de façon différente pour l'utilité commune sous forme de différents dons à chacun. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Avez-vous remarqué? Dans l'Église, il y a des gens qui ont, on pourrait dire, le don de dire la bonne chose au bon moment. Ça nous encourage, ça nous réjouit, ça nous donne des fois la réponse à ce qu'on attend ou tout ça. Certains l'ont moins, mais d'autres l'ont plus. Alors, Dieu à certains a donné un peu plus ce don-là d'être capable d'encourager, de donner des réponses. À l'autre à côté qui a moins ce don-là, mais qui l'a un peu, Dieu va donner un autre don en quantité plus grande. C'est lui qui répartit les dons. Et c'est bon qu'on le voit comment Dieu travaille. Pour ne pas se comparer les uns aux autres non plus. Chacun a ses lignes de force dans l'Église. Et c'est ce qui fait l'équipe. Et c'est ce qui fait la beauté de la famille aussi. Certains ont une capacité étonnante d'encourager. Même dans des situations affreuses. Il y a des gens qui ont le don de dire, dans peu de mots, juste quelques paroles pour encourager. Et des fois, vous êtes venu au monde avec un talent de ça, et Dieu a ajouté à ça pour que vous soyez capable de le faire. Il y a des gens, par exemple, qui sont capables d'assister des personnes mourantes avec un encouragement comme c'est pas possible, une sérénité comme c'est pas possible. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Moi, je serais pas capable de faire ce qu'ils font. J'ai pas ce don-là comme certaines personnes dans l'Église l'ont. Voyez-vous? Je travaille à le développer, puis j'y demande. Mais d'autres l'ont plus que moi. Je n'ai pas à me comparer puis à faire une compétition, c'est pas ça. Mais là, je vois comment Dieu travaille. D'autres vont avoir cette parole de sagesse-là lorsqu'ils vont voir un membre, par exemple, se plaindre d'un autre. Et là, ils vont avoir la sagesse de Dieu de dire, écoute, viens pas me dire ça à moi. J'ai pas besoin de savoir que ça va pas avec tel. Va parler à la personne. C'est marqué dans la Bible. C'est avec elle faut que tu règles cette chose-là. Pas en répandant aux autres comme ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Voyez-vous? Parce que ça, c'est la culture de Dieu qui nous apprend à faire ça. Va vers ton frère. Un autre va passer une situation difficile, va perdre un être cher ou va subir des choses difficiles, et la personne va dire, je sais par quoi tu passes, j'ai passé par là. À un moment donné, j'ai perdu tout. J'ai tout perdu dans ma vie, il y a eu telle chose. Je sais comment ce qu'on se sent le premier jour, puis le deuxième jour, puis comment ça... Je peux te comprendre. Vous savez, juste ça, l'autre personne va se sentir compris, accueilli, aimé. Alors, c'est un don important, cette parole de sagesse. On peut la voir à l'action dans l'Église. Verset 8, continuons. Alors, à un, il donne une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance. Et ça aussi, c'est un don du Saint-Esprit, une parole de connaissance. Et on n'a pas tous la même connaissance. On n'a pas tous non plus la même connaissance biblique. Puis on n'a pas à se le reprocher. On a à s'encourager à faire des échanges respectueux. Mais quand un autre ne comprend pas ce que moi je comprends peut-être, j'ai pas à me sentir supérieur et j'ai pas à l'abaisser ou à mettre dans la gorge les choses que moi je pense. D'abord, je suis mieux de vérifier pour être sûr si ce que je pense est vraiment ce que Dieu pense, première des choses. Et deuxièmement, je peux laisser de la place à l'autre pour apprendre puis respirer aussi là. Voyez-vous? Parole de connaissance. Alors, le Saint-Esprit, il ouvre notre esprit à ça. Dans nos études bibliques de chaque jour, quand on prend le temps, pas de lire comme on lit le journal, mais d'étudier, comme dit M. Appartient, d'étudier la Bible, de regarder verset par verset, de les écrire s'il faut, d'aller voir les versets correspondants, de réfléchir un peu sur ce qui est écrit, puis d'y penser ensuite dans la journée, ça pénètre et là, la connaissance se développe. Et on peut demander à Dieu ensuite de nous montrer comment l'appliquer. On va chercher cette connaissance-là quand on vient à l'Assemblée de Sabbat, qui est une convocation pour l'enseignement. C'est pas pour rien que Dieu a fait ça, pour nous enseigner, pour nous aider. Alors, on peut demander à Dieu de nous aider à croître dans ça. Verset 9. À un autre, la foi. Si on pourrait en parler longtemps, il pourrait donner plusieurs sermons, mais écoutez, il y a des degrés dans la foi. Il y a des degrés dans la foi. Certains ont plus de foi dans telle situation donnée que le voisin dans l'Église. Alors que le voisin dans l'Église va avoir plus de foi dans tel autre domaine. C'est pour ça que M. Appartient, des fois, nous disait, faites attention, ma foi peut vous tuer. Dans le sens que si vous me voyez, moi, faire telle chose à cause de ma foi, essayez pas de faire pareil aveuglément en disant, oui, je crois. Non, faut que vous croyiez vraiment. OK? Il vous sera fait selon votre foi. Un autre, la foi. Il y a des degrés. On peut le demander à Dieu, qui donne la foi à chacun de nous, à son Église. Et je vais vous dire une chose, c'est que nous en aurons besoin dans les circonstances qui s'en viennent. Parce que avec la foi de Dieu, en quantité suffisante en nous, si nous sommes proches de lui, si on est sous son aile, quand la turbulence va arriver, on va voir avec les yeux du Christ. Parce que ce sera le Christ qui vivra en nous. On ne comptera pas sur nous. Il faudra voir au-delà des circonstances qu'il y a là. Parce que les circonstances physiques autour, elles nous parlent puissamment, parce que ça, c'est la réalité qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on réalise. Alors que nous, on regarde à l'invisible. Comme les témoins de la foi d'Hébreux 11, qui voyaient au-delà du monde dans lequel ils vivaient. Comme Abraham qui attendait la ville promise, alors qu'il s'est endormi, qui est mort avant. Il savait que Dieu allait lui donner en temps et lieu ce qu'il lui avait promis. Il n'avait pas eu de son vivant. Vous savez, on va rentrer dans des périodes bientôt, et ça commence, de turbulences importantes au point de vue économique. Il faudra garder le cap. Pareil. S'aider, s'encourager, s'entraider, être prudent. On doit être prudent dès maintenant. Mais il y aura des périodes de grandes turbulences qui viennent. Vous voyez sur les marchés actuellement comment tout est volatile et comment tout change avec une petite nouvelle qui sort une journée et la bourse soit grimpe au maximum ou bas des records ou soit chute à des degrés qu'elle n'a jamais atteint auparavant. Tout est instable. On est dans une période de préparation à des grandes turbulences. Il faut le savoir d'avance. Je vous le dis pour que vous soyez prêts et que je sois prêt. De sorte que ça ne nous surprenne pas, mais que quand ça va arriver, qu'on garde les yeux sur le Christ. On aura besoin de foi. Et on aura besoin, comment je dirais, que notre foi soit déjà éprouvée. Dans le sens qu'on ait fait l'expérience de la foi avec Dieu. Et ça, on l'a fait même dans des petites choses. Dans des petites, petites choses de notre vie courante, là. De demander des choses à Dieu en lui demandant d'abord de faire sa volonté en toutes choses. Mais des fois, on lui demande des petites choses, puis il nous les accorde, puis ça nous réjouit tellement. Puis c'est pas des choses qui changent la face du monde, là. C'est tout petit. Mais on sent sa présence, puis ça nous encourage. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Je vais vous le dire. Je pense que je peux vous le dire. Dernièrement, on en parlait, mon épouse et moi, quand on a pris le repas tantôt avant de venir à l'Assemblée. L'an passé, j'ai dû faire creuser autour de la maison. Et puis, j'ai un seul arbre en avant, un beau petit pommetier décoratif que je taille depuis des années pour faire comme un gros bonsaï avec. Alors, j'avais demandé à Dieu de me le garder parce que on m'avait dit, votre arbre, il faut qu'il parte. À cause des lois de la CSST, il faut qu'il creuse, il faut qu'il y ait une ouverture de terrain de tel angle, puis l'arbre était dans l'angle et tout ça. J'avais demandé à Dieu, je voulais le garder si possible. Ils ont creusé, ils sont arrivés là. Ils ont pu creuser la largeur de deux largeurs de pelle à peu près, un et demi le long de la maison. Ils ont frappé un rocher dur, qu'ils pouvaient pas, ils pouvaient pas le déplacer et l'arbre était au-dessus. Alors, ils ont enlevé un peu de terre. Et puis, l'arbre est resté là. J'avais averti ceux qui conduisaient les pelles de faire attention aux branches parce qu'ils étaient dans le bord pour aller chercher la terre en bas. Puis, j'ai surveillé. Finalement, ils n'ont pas brisé rien. Mon arbre est là. Il est très, très beau. Sauf que la même année, là, j'ai dit, il faut que j'y donne une taille, puis une taille sévère parce qu'il montait beaucoup trop haut et je voulais lui garder sa forme de champignon. Et puis, il y a déjà 12, 15 pieds d'eau. Fait que c'était difficile d'aller tailler en haut quand les branches du centre étaient déjà énormes. Alors, je lui ai donné une taille plus que sévère. Puis là, quand j'ai vu sortir les feuilles ce printemps, il y avait une belle couronne de feuilles. Là, les fleurs sont sorties. En haut, c'était sec. Les branches étaient secs. J'ai dit, je l'ai taillé trop fort. Surtout la même année que les racines ont été cassées en bas, sur un côté. Et tout ça, ça poussera plus. J'en ai parlé à Dieu. Mais simplement, j'ai dit, Dieu, écoute, ça change pas la face du monde, là. Mais j'aimerais ça. J'ai dit, tiens, mon petit arbre. C'était quasiment comme, avec le ricin de Jonas, là. Cette semaine, à un moment donné, je me lève, je vais chercher mon café, je regarde en haut. Il y avait des tout petites feuilles de sortie dans mes branches mortes du milieu. Des petits bourgeons. Et là, ça a continué depuis ce temps-là. Et là, il est après faire des feuilles, puis il va faire des branches nouvelles, petites, qui vont être faciles à tailler sur le dessus. Merveilleux. C'est pas la fin du monde, mais c'est encourageant. Tellement, tellement. On demande, puis on reçoit. On peut faire l'expérience dans des petites choses avec notre Dieu comme ça. Plus on en fait, plus ça nous fortifie dans la foi, parce qu'on sait qu'il répond. Puis il y a beaucoup d'autres réponses. Il y a des gens qui ont été guéris dernièrement, vous le savez. À Montréal, par exemple, des guérisons de toute évidence attribuables directement à Dieu qui sont faites rapidement. Alors ça, c'est encourageant. Et plus on travaille à faire ces expériences-là avec Dieu, plus on sera capable, quand vont venir les grands bouleversements, de passer à travers. Verset 9. À un autre, le don des guérisons, c'est par le même esprit. Le don de guérison. On en a des guérisons, puis on en aura des guérisons, et on en aura besoin. Vous voyez apparaître les épidémies, les dangers de santé de toutes sortes, et on est à risque un peu partout où on va, pour ainsi dire. Alors, on en aura besoin de la protection de Dieu, et si on est affecté, on aura besoin d'être guéri. Et on a besoin à ce moment-là de se faire imposer les mains par un ministre, comme Dieu nous dit, pour avoir la guérison. Mais je vais vous dire une chose. Même les membres de l'Église peuvent obtenir la guérison de Dieu. Peut-être que ça vous surprend. Pas parce que vous imposez les mains. On impose les mains seulement si on a reçu l'imposition des mains pour être un ministre. OK? Mais vous avez une puissance extraordinaire. Vous avez un contact en haut lieu. Vous avez un contact avec le Dieu de l'univers et lui guérit. Et lui répond aux prières. Il y a un verset qui me revient dernièrement, régulièrement dans ma tête, le psaume 116, verset 1. Ça dit ceci. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. » J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Il répond. Il ne reste pas indifférent à nos prières. Alors, les membres de l'Église ont un rôle majeur à jouer en priant pour la guérison de d'autres personnes. C'est pour ça que, régulièrement, lorsqu'on fait les annonces à l'Église, à l'Assemblée de Sabbat, on demande des prières pour un ou pour l'autre dans l'Église ou pour le proche parent et tout ça. Et Dieu répond, Dieu réagit. Je vous raconte un fait qui est arrivé aux Philippines. C'est un grand ami de M. Rod McNair. Il est ministre aujourd'hui aux Philippines. M. Deguilla. Autrefois, avant qu'il soit dans l'Église de Dieu, il exerçait son métier, c'est un pêcheur. Il y avait une jeune famille. À un moment donné, sa petite fille tombe très malade, proche de mourir. Il était catholique, mais de nom, comme plusieurs aux Philippines. Et il y a une nuit, il s'en va sur la plage tout seul. Et là, il s'est mis à genoux. Vous savez ce qu'il a dit à Dieu? Il a raconté ça à M. McNair plus tard. Il a dit à Dieu, Dieu, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que Jésus a guéri des gens. Si Dieu, tu es la même personne que celle au sujet de qui j'ai entendu ces choses-là, guéris ma fille, je te le demande. Si tu guéris ma fille, je te suivrai toute ma vie. Ce petit monsieur-là, à genoux, sur le sable, tout seul, avec le cœur déchiré par sa petite fille amourante, a demandé ça au Dieu puissant. T'es pas d'Église de Dieu, là. Faisait aucune religion, sinon de nom, la religion catholique. Sa fille a été guérie. L'histoire finit pas là. Dieu travaille de loin avec les êtres humains. Sa fille a été guérie. Et par après, il a prié pour d'autres et il s'est passé des choses. Et sa réputation s'est étendue dans son village comme de quoi, quand lui parlait à Dieu, Dieu répondait et les gens étaient guéris. OK? OK? Il n'était pas ministre, là. OK? Et sa réputation s'est répandue et les gens du village se sont mis à aller le voir régulièrement pour demander des prières pour eux autres puis pour leurs enfants. Aujourd'hui, il est ministre de l'Église du Dieu vivant là-bas. Et il continue à prier pour les gens. Je vous dis ça pour que vous sachiez que la prière du juste, pas la prière du ministre, bien sûr aussi du ministre s'il est juste, mais la prière du juste, elle est entendue, OK, en haut lieu, et que Dieu répond. Alors, dans ce sens-là, quand vous voyez quelqu'un de malade, quand vous voyez quelqu'un qui a besoin, demandez au Très-Haut d'intervenir pour cette personne-là, et Dieu répond aux prières. C'est un Dieu juste. Vous savez, on ne doit jamais limiter Dieu. On ne doit jamais limiter Dieu. 1 Corinthiens 12, maintenant, et le verset 10. 1 Corinthiens 12, verset 10. On parle des dons que Dieu donne, selon sa volonté, à un et à l'autre. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, le don de prophétie. Et le don de prophétie, c'est le don de parler, tout simplement, de façon inspirée, selon les paroles écrites de Dieu. C'est pas le don nécessairement d'annoncer d'avance des choses qui vont arriver, comme les prophètes de l'Ancien Testament. Le don de prophétie, ça veut dire surtout parler de façon inspirée, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, dire la vérité, les choses vraies. À un autre, le discernement des esprits, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. On l'a vu le jour de la Pentecôte, il y a eu diversité de langues cette journée-là. Et Dieu donne à certains de parler plusieurs langues. On en a ici deux qui parlent trois langues, anglais, français, espagnol. C'est le don des langues. C'est ça. Et il y en a qui ont le don d'interpréter les langues, d'être capable de traduire, pour que ça soit audible et compréhensible pour ceux qui entendent, tout simplement. Alors, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans l'avenir. On a un gros travail à faire. On a beaucoup de gens de langues différentes à rejoindre. OK? Imaginez l'impact puis les bienfaits utiles pour l'œuvre si Dieu nous accorde à un moment donné de pouvoir parler en langue comme au jour de la Pentecôte. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Mes témoignages vont être rendus. Dans quelle proportion, je ne sais pas. Mais à suivre. Et à suivre de façon plus qu'enthousiasmante. On va voir des choses, ce que je vous disais au début. On va voir et on va vivre des choses qu'on n'a jamais imaginées, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais imaginées depuis qu'on est venu à l'Église. Mais il faut nous préparer à ça. Il faut nous préparer à ça. Pour en faire partie, pour les voir, pour les comprendre, il va falloir être proche de Dieu. Celui qui ne sera pas proche de Dieu n'y verra que du feu, comme on dit. Il ne comprendra pas ces choses-là. Ils vont dire que ces gens-là sont bizarres. 1 Corinthiens 1. Maintenant, 1 Corinthiens 1. Et on va commencer au verset 4. C'est encore Paul qui écrit aux Corinthiens. Et vous allez avoir ici un des thèmes majeurs des lettres aux Corinthiens. Je rends grâce à mon Dieu, 1 Corinthiens 1, verset 4, par de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Donc, vous avez été pardonné par la mort du Christ, et ainsi de suite. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc, il connaissait déjà la vérité, le plan de Dieu, et ainsi de suite. De sorte, regardez bien, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. De quoi on parle aujourd'hui? Des dons spirituels qui seront bientôt accordés à l'Église. Paul disait à un moment donné, il faut qu'il ne manque aucun don. Dans l'attente que vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. et ça s'adresse particulièrement à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles, parce que nous attendons et nous sommes tout proches de l'avènement de Jésus-Christ. Comprenez-vous pourquoi il devrait y avoir des signes accompagnant la parole et qu'il ne devrait manquer aucun don, comme l'apôtre Paul mentionne ici. Dans l'amour où vous êtes, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans tout ça, nous, on doit se purifier. On doit devenir irréprochable de plus en plus. Marcher vers la perfection. Et vous pourrez relire Corinthiens avec cet élément-là à l'esprit. Que toute l'instruction de Paul dans ce livre a pour but de faire en sorte qu'il ne manque aucun don aux membres de l'Église. Vous lirez le livre dans cette optique-là, vous allez voir, ça va vous aider. Toute l'instruction de Paul dans ce livre-là a pour but de nous faire réaliser qu'il nous faut avoir les dons de l'Esprit pour compléter le travail. Maintenant, voyons quelques-unes des directives de Paul pour que les gens se préparent, pour que nous nous préparions aux dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 1, on est dans ce passage-là maintenant, on va lire le verset 10. Une façon de nous préparer à recevoir les dons de l'Esprit, que Dieu nous les accorde, ces dons-là, pour qu'on finisse le travail. On en a besoin. Verset 10. « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. » Formidable. Être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Alors, la première chose à faire pour nous préparer à recevoir les dons spirituels, c'est de travailler à être unis, de ne pas laisser des divisions intervenir en nous autres, de ne pas laisser des conflits grandir ou des divergences d'opinion ou tout ça, d'être capable d'être respectueux envers les autres, même s'ils sont différents et ainsi de suite. Pas qu'il y ait de divisions, pas qu'il y ait d'arguments, pas qu'il y ait de conflits. Écoutez, c'est normal, il faut qu'on s'habitue maintenant à travailler ensemble. Ça va être long l'éternité. Je vous dis ça tout de suite, là. C'est long, l'éternité. Et on va travailler ensemble durant toute l'éternité. Ensuite, avec le Père et avec le Christ pour bâtir plein de choses et faire plein de choses. Mais il y a une logique là-dedans. C'est que Dieu peut pas permettre qu'on soit des semeurs de division ou qu'on entretienne la division ou qu'on fasse les choses à notre façon dans sa famille alors qu'il va vouloir qu'on travaille ensemble en parfaite harmonie pour le reste de l'humanité, pour le reste de l'éternité. Ce serait pas logique. Il faut que nous, maintenant, on s'applique à travailler dans l'unité. Le point de départ pour que Dieu nous accorde les dons spirituels, c'est d'être une équipe harmonieuse qui travaille en coopération. Et ça, je vous le dis à vous autres, là, Saguenay, Nouveau-Brunswick, région de Québec, ici, Trois-Rivières, faut pas que j'oublie personne, il y a un bel esprit d'unité, puis je vois les efforts pour être capable de développer cette unité-là encore. Je vous le dis parce que ça fait du bien de se faire dire aussi qu'on fait des bonnes choses, qu'on est en train de réussir des choses. C'est un fait. C'est pas de la flatterie. Je vous dis ce que je vois, ce que je vis. On est à l'ère de l'Odyssée, c'est vrai. Et il faut faire attention. Parce que dans l'Odyssée, les gens sont pas pressés pour changer. Dans l'ère de l'Odyssée. Et les gens ont tendance à faire comme ils pensent un peu, chacun de leur côté. Il y a autant de vérité là qu'il y en a là. Il y a, vous savez, là, on devient plus mollo sur ces choses-là. Non, prouvez où elle est la vérité. Prouvez où elle est la vraie Église. Et ensuite, restez fidèle là-dessus. C'est ça la fidélité. C'est ça la persévérance. Autrement, on est à risque. On est à l'ère de l'Odyssée. Et les dangers sont là, tout autour de nous. On est à un moment de l'histoire, en plus, et vous le savez, où les groupes dans le monde, les organisations, les gouvernements, se divise puis se sous-divise constamment. On fait des nouveaux partis politiques pour sortir l'ancien, et dans les organisations, d'autres essaient de prendre le pouvoir. Il y a des petits groupes, des cliques qui se forment. C'est la façon humaine, inspirée par un non-humain que vous connaissez bien, de faire les choses, inspirée par Satan, le roi de la division. Alors que nous, dans l'Église, on doit avoir une autre approche que celle-là. Ceux qui se préparent à terminer l'œuvre, cette œuvre unique de Dieu, ont besoin d'être unis. Et c'est en train de se développer. On vit dans un monde désuni. On vit dans un monde rempli de compétition. Et dans l'Église de Dieu, il ne doit pas avoir de compétition. Il ne doit pas avoir de compétition. Si on demande à quelqu'un de faire un travail, c'est lui ou elle qui le fait, ou qui le fait tout simplement. Les autres n'ont pas à jalouser ça, mais à supporter, tout simplement. Ça, c'est la famille. C'est la famille de Dieu. Alors que dans le monde, c'est individualiste, de plus en plus, hein? Faites ce que vous pensez. Vous méritez bien ça. Payez-vous telle chose, même si vous n'avez pas le moyen. Et tout ça. Alors que dans l'Église, on dit non, faites attention. Pensez aux autres. Prévoyez l'avenir. Ça, c'est la façon de faire de Dieu. Occupez-vous des autres. Alors que dans le monde, on dit, occupez-vous de vous-même. Hein? Si vous occupez pas, si, on dit des fois, si vous ne vous occupez pas de vous-même, qui va s'en occuper? Alors, faites-le. OK. C'est faux raisonnement, c'est contraire à la Bible. Absolument. Alors, nous, dans ce monde-là, écoutez, je vous apprends rien, on nage à compte courant. On n'est pas dans la mode du jour, on n'est pas dans l'esprit du temps. Alors, il faut valoriser l'unité et s'appliquer à développer cette unité-là. Dans le couple, c'est important, dans un couple, de développer l'unité, de faire attention à l'autre, de développer des liens. Dans la famille, la même chose. De prendre le temps de s'occuper de nos enfants. Malheureusement, notre société est bâtie que les parents ne s'occupent plus de leurs enfants. Ils les font élever par d'autres. Et après, ils demandent au gouvernement de régler les problèmes ou de trouver les fugueurs, comme je voyais dans le journal ce matin, qu'ici, seulement dans la petite ville de Québec, on a 100 000 fugues par année, 3 par jour. 3 jeunes par jour qui se sauvent du foyer familial. Pas parce qu'ils sont heureux. S'il y a quelqu'un à la maison, j'allais dire. Ça se désagrège. On n'a plus la famille qu'on avait. On n'a plus ces joies, ces bonheurs-là d'une famille unie qui fait des choses ensemble. On peut pas élever les enfants par téléphone. On peut pas créer des liens, à grande distance. Dans certains cas, on peut arriver à faire des choses, mais l'idéal, c'est d'être ensemble. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'Église. Créer l'unité dans notre environnement de travail, dans la mesure qu'on peut, parce que des fois, c'est pas évident. Je sais que vous autres, vous avez des milieux de travail qui sont parfois assez difficiles à vivre, mais dans la mesure du possible, nous, on est des agents d'unité. Alors, on répète pas ce qu'on a entendu de mauvais concernant un autre travailleur, et ainsi de suite. Au contraire, on va dire des choses bonnes de la personne en question. Écoutez, on est appelé à quoi? On est appelé à changer le monde. Pas surprenant qu'on doive changer nous d'abord. Il va falloir être prêt pour changer le monde. Deuxième chose, 1 Corinthiens 1. Deuxième chose, c'est glorifier Dieu et non pas nous-mêmes. En toute chose, ça c'est une chose qu'il faut développer, c'est glorifier Dieu et non pas nous-mêmes. C'est être humble. 1 Corinthiens 1, 25-26. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Écoutez, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je sais qui je suis, mais pas encore assez. J'ai besoin que Dieu me montre encore plus de voir que je suis rien. Et plus je réalise n'être rien, plus je suis capable de compter sur la puissance de Dieu. Et plus j'ai la paix de Christ en dedans de moi, parce que je sais que c'est pas moi qui fais, c'est le Christ qui fait en dedans de moi. Ça change toute chose. Et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, par rapport au mien, par rapport à d'autres ou quoi que ce soit, je peux compter sur l'aide de Dieu pour que même si la situation semble impossible, semble sans issue, Dieu, qui est en charge, en prend soin pour que ça tourne au mieux. Comme M. Armstrong disait, Dieu est celui qui peut prendre un citron et en faire de la limonade. Quelles que soient nos situations ou nos conditions de vie. Verset 31 du même chapitre, « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » C'est-à-dire la gloire va à Dieu et non pas à nous. Alors, en plus de l'unité, il y a l'humilité qui est une autre condition essentielle. Si on veut que Dieu nous accorde généreusement les dons de l'Esprit nécessaires pour que nous puissions terminer la mission qui nous a été confiée. Rappelez-vous un petit passage. Je me rappelle pas le verset, mais Dieu dit clairement, plus qu'une fois, qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. C'est ça, hein? Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et parfois, il doit écraser notre orgueil avant qu'on devienne humble pour être capable de nous bénir. Sans ça, ça fonctionne pas. Et je vais vous montrer pourquoi aussi. Avant de nous accorder de plus grands pouvoirs. Parce que quand je parle de dons spirituels, je parle de grands pouvoirs aussi, là. Avant de pouvoir nous accorder de plus grands pouvoirs, Dieu doit être certain que nous avons l'humilité nécessaire. Il doit être certain de ça. Pourquoi est-ce que c'est si important? Écoutez, on parle de miracles à accomplir ici, là. On parle de miracles à accomplir. Par qui? Par des êtres humains. Mettons ça dans la perspective, là. Les dons spirituels, parmi les plus éclatants, c'est des miracles accomplis à travers des êtres humains par Dieu. Mais là, je vous ramène à la réalité, là. Puis je me ramène aussi à la réalité. Voyez comment il nous arrive à chacun et à chacune d'entre nous, si souvent, de nous enorgueillir, de nous gonfler d'orgueil puis de vantardise, de nous penser importants devant la moindre petite chose qui nous arrive ou le moindre, parfois, petit compliment qui nous est fait. Eh, monsieur, des fois, on part sur le bord de comme si c'était moi qui avais fait la chose. La première réaction, là, devant certaines choses qui nous arrivent ou qui nous sont dites, qui nous flattent un peu ou quelque chose de même, on est porté tout de suite à gonfler un petit peu le torse, là, hein? Alors, ça, c'est humain, c'est la première réaction. Mais il faut que je le sache pour dire non, 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 non. Même si j'ai pu faire quelque chose de bien, la personne me remercie, d'accord, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Merci à Dieu. OK? Pas dire, ouais, je vais prendre 25 % du crédit. Je vais en laisser 75 à Dieu, mais je vais en prendre 25 parce que moi, j'étais là. Non, moi, j'étais pas là. Et si Dieu ne m'avait pas pardonné, je serais pas là. Et si Dieu ne continuait pas à être patient envers moi et à m'aider, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais rien réussir. Et ce que je réussis, c'est seulement par Dieu que je peux le réussir. Alors, faut penser dans ce sens-là. Si nous ne sommes pas totalement et profondément humbles et que nous puissions faire des miracles, ça nous monterait à la tête, tout simplement. Si on s'enorgueillit du moindre compliment parfois qui nous est fait, imaginez-vous si on faisait un acte d'éclat comme ça, comment le risque serait grand de s'enfler la tête si on n'était pas véritablement humble. Par ces tests d'humilité, Dieu nous prépare à nous donner des choses plus grandes, à nous donner des plus grands pouvoirs. Il nous fait passer des tests d'humilité. Allez dans Luc 22. Vous allez voir, Pierre a passé par là. Je vais vous montrer cet événement-là dans sa vie, à Pierre, Luc 22. Et il est passé par le fait d'avoir été humilié. Lui qui se pensait quelqu'un, là, comme chacun de nous, on se pense quelqu'un. On se pensait avant, moins aujourd'hui, mais encore trop. Alors, Pierre est passé par là. Vous vous rappelez, avant la Pentecôte, peu avant la mort du Christ, quand Jésus-Christ a dit, faut que j'aille à Jérusalem et je vais être mis à mort et tout ça, qu'est-ce que Pierre a fait? Non, 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 ça t'arrivera pas. Bibi, I'm here. Moi, je suis là. Moi, je vais te protéger, ça t'arrivera pas. OK? Ça, c'est ce que Pierre a dit. Il savait pas dans quoi il s'embarquait. Il comprenait pas encore son orgueil, que c'était par orgueil aussi. Moi, je peux arranger les choses. OK? Moi, je vais faire ce qu'il faut faire. Je vais te protéger. Puis après ça, pas longtemps, juste avant que le Christ soit arrêté, au moment que les soldats sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée puis il a coupé l'oreille du serviteur du centenier. OK? Alors, il avait encore la même attitude. On va se battre. On va se faire une armée s'il faut. On permettra pas que le Christ soit tué. Voyez-vous? Il y avait encore cette mentalité humaine qui n'est pas la mentalité de Dieu, absolument pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Christ a été arrêté. Le Christ a été amené pour être jugé. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Qu'est-ce que Pierre a fait? OK? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Et quand Pierre est revenu ensuite, là, on voit le passage ici, Luc 22, on peut commencer au verset 54. Luc 22, verset 54. Là, je vous lirai pas tout le passage, vous le verrez vous-même. Là, Pierre se présente dans la cour où le Christ est retenu captif. Et là, on dit, t'étais avec lui? Il y a des gens dans la cour intérieure qui disent, toi, tu connais Jésus-Christ, t'étais avec lui. Il dit, non, 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 je connais pas. Le Christ, il avait dit, tu vas me renier trois fois avant que le coq chante. Et c'est ce qu'il a fait. Il a renié le Christ. Et même avec force et avec véhémence. Et regardez, verset 60, prenons juste ce passage-là, le dernier bout. Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Là, il a frappé le mur qu'il devait frapper pour voir son orgueil, pour voir sa prétention d'être capable de régler les choses à sa façon. Voyez-vous? Et Dieu doit écraser notre vanité, notre orgueil, notre ego, avant de nous utiliser de façon puissante. Avant de nous utiliser de façon spéciale, puissante. Alors, Pierre a été humilié. Il a réalisé qu'il était incapable de faire ce qu'il avait dit. Pierre, à ce moment-là, a vu sa petitesse. Il a vu son humanité. Il a vu sa poussière, autrement dit, qu'il n'était rien. Pourtant, à peine quelques semaines après, à partir de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le même homme qui disait « Je ne le connais pas ». Le même homme est sorti, il a fait un discours puissant. Il a accompli des miracles. Il a eu courage, force. Il a parlé en langue. Il a expliqué les Écritures. Le même homme. Qu'est-ce qui s'était passé entre les deux? Il avait été humilié. Il avait reconnu qu'il n'était rien. Là, à ce moment-là, il était prêt à recevoir la puissance de Dieu. Et Dieu, là, lui a accordé la puissance nécessaire pour accomplir la portion d'œuvre que Pierre devait accomplir à ce moment-là. C'est fort. Mais on doit tous passer par ce creuset d'apprendre l'humilité. Dieu doit nous humilier pour nous préparer. Et quand ça arrive, disons merci à Dieu qu'il le fasse. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il y a des gros cadeaux en réserve pour nous. Et quand on a passé par cette expérience-là, là, il déverse sur nous ses bénédictions puis ses encouragements. Mais il doit s'assurer qu'en nous donnant de plus grands pouvoirs, nous le glorifierons lui et non pas nous. C'est ça la grande différence. Enfin, troisième moyen de nous préparer aux grands dons spirituels qui s'en viennent, c'est de chercher la pureté personnelle en toute chose. Chercher la pureté personnelle. 1 Corinthiens 5, un peu plus loin de où on était. Remarquez, on est toujours dans le livre de Corinthiens, là. Et ça fait partie des conditions que nous devons remplir, que nous devons développer pour recevoir les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Paul ici fait un reproche à Corinthe parce qu'il dit, vous tolérez quelque chose dans l'Église qui ne doit pas être toléré, on doit intervenir et régler la chose. Verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, c'est-à-dire sa belle-mère. Il y avait relation sexuelle avec la deuxième épouse de son père. Et là, Paul reproche à l'Église de ne pas être intervenu pour exclure cette personne-là de l'Église, pour protéger la pureté de l'Église, et en même temps pour faire en sorte que la personne puisse être ébranlé et se repentir pour revenir à l'Église plus tard, ce qui est arrivé à l'homme en question. Alors, mais ça, je vous donne ça pour qu'on voit le principe ici, qu'on doit, nous, viser la pureté spirituelle. Parce qu'il y a un lien direct entre le fait qu'on se purifie actuellement et les dons spirituels à recevoir. Si vous allez dans le dernier livre d'Apocalypse, je ne m'y reporterai pas, mais Dieu dit à la toute fin, je pense que c'est dans la dernière page de la Bible, il dit au temps de la fin, que celui qui se purifie encore, et que celui qui se souille encore. À un moment donné, la ligne est clairement tracée. Ceux qui appartiennent à Dieu, c'est clair qu'ils appartiennent à Dieu. Et ceux qui se souillent, c'est pas ceux qui sont à l'extrême dans tout, c'est ceux qui gardent des compromis aussi. Quand on continue à se souiller dans certaines choses, on se pense bon dans certains domaines, mais qu'on garde des transgressions qu'on ne veut pas changer, ou qu'on ne veut pas se soumettre au gouvernement de Dieu, ou ainsi de suite, qu'on garde ces transgressions-là, on est en train de continuer à se souiller et on n'est pas en train de se soumettre à Dieu avec humilité. Alors, en demandant les dons spirituels, il nous faut être humbles, il nous faut travailler à l'unité et il nous faut nous purifier. 1 Corinthiens 6, juste un peu plus loin, versets 9 et 10, regardez bien. « Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire ceux qui transgressent les lois de Dieu, qui continuent à le faire, n'hériteront pas le royaume de Dieu. » On était tous des injustes avant, et parfois on manque notre coup encore, mais il faut être en train de vouloir changer à tout prix. avec l'aide de Dieu. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les cupides, ivrognes, outrageux, et ainsi de suite, n'entreront dans le royaume de Dieu. Il faut que ces gens-là changent. C'est ces gens-là que Dieu a appelés. On est tous des transgresseurs de la loi, dit, mais il faut changer. Si on garde une partie, ne serait-ce qu'une partie de ces choses-là, on n'est pas digne du royaume de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. » Heureusement, il y a la rédemption, il y a le sacrifice de Christ. « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. » Alors, voyez-vous, il y a un lien direct entre le fait de nous purifier, de vivre de plus en plus selon les lois de Dieu et le fait de recevoir bientôt les dons spirituels. Alors que le monde se souille de plus en plus, les enfants de Dieu, eux, doivent continuer à se purifier puis à s'éloigner des souillures du monde. Alors, on a le choix. Le choix reste le nôtre. On a le choix soit suivre la chair ou soit suivre l'Esprit de Dieu. Mais pour avoir les dons de l'Esprit dont je vous parle, on ne peut pas ne pas faire les choses que Dieu nous demande, ou on ne peut pas faire les choses que Dieu défend. Et on ne peut pas non plus avoir un pied dans l'Église et un pied dans le monde. C'est pas possible. Ça, c'est des raisonnements humains. En disant, Dieu va comprendre. Non, si c'est ça, Dieu comprend une chose, c'est que vous ne lui appartenez pas entièrement. Qui sait si Dieu ne donnera pas à certains d'entre nous d'avoir des dons spirituels incroyables à la fin? Mais il faut nous y préparer chaque jour, de toutes les façons que Dieu nous montre dans sa parole. Et vous pourrez lire tout le premier livre de Corinthiens qui nous dit comment se préparer aux dons spirituels. Dans les dîmes, dans les offrandes aussi, c'est la même chose. Parce que c'est un acte d'adoration devant Dieu et ça montre où est notre cœur réellement. Lorsqu'on est fidèle dans nos dîmes, lorsqu'on est généreux dans nos offrandes et ainsi de suite. Et faire confiance à ceux que Dieu a établis dans son Église pour administrer cet argent-là pour accomplir l'œuvre. Et c'est le travail qu'on doit faire. Donc, on a un choix. Ou bien on va avec la culture du monde, ou bien on va avec la culture de Dieu. Et dans l'Église, on a certaines traditions aussi qui ont été ajoutées dans ce que Dieu nous montre. Comme vous pourrez aller voir plus loin, je ne vais pas prendre le temps du sermon ici. Vous irez voir dans 1 Corinthiens 11, de 1 à 16. Paul parle, par exemple, de la longueur des cheveux. Il explique clairement que les hommes doivent avoir les cheveux courts et que les femmes doivent porter les cheveux longs parce que la chevelure, comme Paul dit, leur a été donnée comme un voile pour couvrir. Et c'est une distinction que Dieu fait. Et bon, ça fait partie de la culture de l'Église. Vous dites, c'est des petites choses? Oui et non. Parce que si l'Église demande de faire ça, c'est parce que ça fait partie de la culture de Dieu. Comme quand on vient à l'Assemblée, on en a parlé tantôt, que les dames viennent bien mises en robe et tout ça, et que les hommes viennent en veston-cravate, parce qu'on se présente devant le Créateur de l'univers. C'est pas marqué dans la Bible qu'il faut venir en veston-cravate. Sauf que c'est une décision administrative de l'Église qui va avec le gouvernement de Dieu. Et dans d'autres pays, c'est pas ça, parce que dans d'autres pays, ils portent d'autres genres de vêtements. Alors pour eux, ils mettent le plus beau vêtement qu'ils ont selon leur tradition. Il y a certains pays que les hommes portent une espèce de chemise blanche qui va jusqu'en bas, presque aux genoux. Et ça, c'est la tenue noble. Les chefs d'État sont comme ça et ainsi de suite. Alors, si on allait dans ce pays-là, on prendrait cette tenue-là pour aller à l'Assemblée de Sabbat. Voyez-vous? Alors, c'est des choses que l'Église nous montre de faire. Alors, je vais plus loin maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un point majeur et je termine avec celui-là. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Paul parle encore des dons. Je vous ai dit que ce livre aux Corinthiens parle des dons spirituels beaucoup. Si vous le voyez sous cet angle-là, ça va vous aider. Verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, cherchez les dons de Dieu, demandez-les, oui, mais il y a une voie par excellence à la base de tout ça et on la trouve à 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Même si je parlerais les langues des hommes et des anges, même si je pouvais traduire, parler en langue, parler 20 langues différentes, si j'ai pas l'amour, Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, d'être capable de parler sous l'inspiration divine, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alors la base de tout ça, pour avoir les dons, et même lorsque les dons seront accordés, il faudra que ce soit fait dans l'amour de Dieu et par amour pour Dieu et pour notre prochain. Ça, c'est le fondement. C'est le solage. C'est la fondation. Voyez-vous, Paul a parlé des dons qu'on aurait besoin. Et à la fin, il dit, voici ce qui est plus important que tous les dons, c'est que ces dons-là soient fondés dans vous sur l'amour de Dieu. Alors, demandez à Dieu d'avoir un cœur pur. Demandez à Dieu d'avoir l'humilité, d'avoir l'amour nécessaire. Il faut croire dans cette sorte d'amour-là, qui n'est pas naturel au point de départ. Parce que la nature humaine ne veut pas se soumettre aux lois de Dieu et n'aime pas selon Dieu, elle aime à sa façon. Et elle se détruit à sa façon avec la sorte d'amour qu'elle a. Mais c'est l'amour de Dieu qui est seul, véritable et qui va rester éternellement. Alors, il faut croire dans cet amour de Dieu pour avoir les dons spirituels dont je vous parle aujourd'hui. Vous savez, vous et moi, on a une grande destinée, incroyable. Anticipons ce qui vient avec joie. Et supplions Dieu de nous préparer comme il faut, selon sa volonté, à ce qui vient. Et laissons-nous guider par son Esprit puissant.